Il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde. Vous venez assister à la dernière rencontre du président Bunel de cette 40e édition de
J'aime
la Foire du Livre.
J'aime bien quand tu m'appelles président Bunel, Karine. Bonjour, mesdames et messieurs.
François, comment va le genou ?
Le genou va mieux. Enfin, mieux, il faut le dire vite, mais ça va.
Bien. C'est assez rare qu'on pose cette question au président
oui,
de la Foire du Livre.
Et alors, le genou, comment est-ce qu'on écrit genou ?
Oui, ça, c'est lacanien comme question.
Soyons lacaniens jusqu'au bout.
Bref, on ne l'écrira pas. On ne l'écrira pas. François, vous avez souhaité, pour cette dernière rencontre qui clôture cette 40e édition, une rencontre avec une autrice que vous connaissez bien. Et vous avez désiré qu'elle soit là. Elle est venue exprès pour vous, ce que vous venez d'apprendre. C'est Nina Bouraoui.
Bonjour, merci. Merci.
Nina, vous êtes venue. Il suffit que François vous demande de venir et vous arrivez comme ça.
Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Non, parce que François, on se connaît depuis très longtemps. Moi, j'ai assisté, alors je ne sais pas si c'était ses débuts, mais en tous les cas, avant la Grande Librairie, sur une chaîne du câble. C'était pour un livre qui s'appelait « Avant les hommes ». Et quand je suis partie, je me suis dit, cet homme a une autre façon de lire, de percevoir les écrivains et de raconter les livres. Et j'étais persuadée qu'il aurait un grand destin dans ce qu'il a choisi, c'est-à-dire de faire de son métier raconter, inviter les écrivains. Donc on a une forme de fidélité parce que je crois que j'ai fait beaucoup de grandes librairies. J'ai compté quelques-unes.
Moi, on m'a dit que vous êtes l'autrice qui en a fait le plus.
C'est possible, oui. Oui, c'est possible.
Avec mon totem, qui est Amélie Nothomb, parce qu'on me reprochait gentiment, hein, on me taquinait en me disant « Oui, mais vous l'invitez tout le temps à la première émission. » Mais peut-être que oui, Nina doit être pas très loin.
Oui, je pense. Oui, je
pense. C'est-à-dire que tu publies moins de livres qu'Amélie.
Je ne publie pas tous les ans.
Voilà.
Pardon.
Mais moi, je suis très touché, et merci, Nina, parce que je pensais, en fait, que Nina était là, et j'ai beaucoup de scrupules. Je viens de découvrir, il y a quelques heures, qu'en réalité, Nina venait spécialement. Je me disais, c'est formidable de venir de Paris à Brive, mais faire l'aller-retour dans la journée, quand même. Voilà. Donc, ça me touche beaucoup, et je suis très heureux que tu sois là, et qu'on puisse partager et échanger tous ensemble. Vous aussi. Ah bah, très bien. Bah, faut le manifester, alors.
Merci.
Mais c'est vrai que pour moi, Nina Bouraoui, alors je voudrais dire une chose, Nina dit on se connaît, c'est vrai que nous nous connaissons, mais La Grande Librairie, c'est une émission un peu particulière, qui est très spéciale en ceci que, pour que l'émission fonctionne, il faut qu'il y ait de l'admiration, en tout cas de la part de l'animateur, envers les écrivains. Une forme, pourquoi ne pas dire le mot, même s'il est un peu, c'est un grand mot, mais c'est un mot qu'on n'ose pas. Vous savez, en France, on a ce problème. Les journalistes ont peur de l'émotion. Alors souvent, ça donne des articles arides, des cœurs secs. Mais il faut avoir un peu d'amour pour les gens qu'on lit. Et les gens qui, quand vous les lisez, vous donnent de l'énergie. Et je dois dire que La Grande Librairie, moi, j'ai besoin de ça. Certains appellent ça bienveillance. Moi, je vais beaucoup plus loin. Ce n'est pas de la bienveillance du tout. Au contraire, ce sont des gens, les écrivains, qui nous ont donné tellement que... On a tellement pu faire de choses grâce à leurs mots, grâce à leurs idées, grâce à leur style, à leur forme, à leurs personnages, qu'on se dit, mais on leur doit bien d'être presque les plus amoureux quand on pose des questions. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une certaine forme d'amour. Et c'est pas un hasard si j'emploie le mot, parce que je pense que Nina est peut-être la grande écrivaine du désir et de l'amour. Je trouve que les livres de Nina, les romans de Nina, sont ceux qui me renseignent le mieux sur les impasses et les paradoxes de ce sentiment étrange qui nous tenaille toujours quand on s'y attend le moins et qui nous propulse vers, somme toute, des activités assez incongrues et insolites et des chemins qu'on n'avait pas du tout l'intention d'explorer. Et j'ajoute juste ceci, après je laisse Karine interroger Nina. Je connaissais Nina Bouraoui avant de faire ce métier, parce que Nina a commencé à écrire très jeune. Et je me souviens d'avoir lu mes premiers on dit mes premiers Nina Bourra, oui, oui, c'est bien, c'est comme on dit mes premiers Steinbeck ou mes premiers Le Clésio. Moi, j'ai lu mes premiers Nina Bourra, oui, avant que d'exercer ce métier, comme lecteur, donc pas tellement comme journaliste, mais a toujours quand même ça en tête. Et je me souviens d'avoir été sidéré par une voix. D'avoir tout à coup été percuté par des livres qui m'offraient une voix singulière, nouvelle, qui était une voix qui s'inscrivait dans une lignée. Il y avait des grands aînés, des grandes aînées, et puis qui me parlait de manière fraternelle. Et c'est très important quand tout à coup, la littérature abolit tout. Le genre, ça c'est très important, l'âge, la destinée, l'identité, l'origine, les lieux, et en fait, vous vous retrouvez, même si ce n'est pas votre vie. Et donc, j'ai toujours lu ensuite, comme journaliste, et quand je la recevais dans la grande librairie, Nina, avec le rappel de la manière dont je la lisais avant de faire le métier. Vous voyez, c'est très bizarre. Vous voyez, c'est comme si tout à coup, vous disiez... C'est arrivé avec d'autres. C'est arrivé avec Philip Roth, John le Carré, vous voyez, des grands écrivains étrangers, mais beaucoup plus âgés. Et ce qui me fascinait, c'est que Nina représentait... Alors, en 15 ans de grande librairie, on a vu, et ça, je trouve ça fabuleux, on voit grandir un écrivain. C'est-à-dire, on voit livre après livre quelque chose qui s'installe comme un arbre. Vous savez, vous voyez un tout petit chêne et vous savez déjà que ça va être énorme. Sauf qu'un chêne, il faut 3 vies pour le voir grandir. Et un écrivain, ce qui est formidable, c'est que tous les 2 ans, tous les 3 ans, il y a un autre livre et cet autre livre gagne en puissance. Je pense que l'œuvre de Nina. Et l'une des rares, il n'y en a pas tant que ça, enfin, je crois, dans la littérature française, qui vraiment, autant dire le mot, en 20 ans de siècle, a gagné en puissance. Voilà. C'est-à-dire que tout à coup, il y a les racines, vous pouvez toujours lire ses premiers livres. Je me souviens très bien de Avant les hommes, c'est bizarre, c'est une lecture dont je me souviens très très bien, peut-être parce que c'était le premier entretien,
oui,
et qui était très dur à faire. Pour moi.
Ça ne se voyait pas, mais moi c'était dur aussi parce que François est un interlocuteur qui ne fait pas peur. C'est vrai, quand tu dis, quand tu parles d'amour, je trouve que c'est vrai. On a peur de ce mot, mais il est très juste. C'est vrai que quand on est sur ce plateau-là, avec cet homme-là, on n'est pas un écrivain en danger. Parce que parfois, les écrivains se sentent en danger lorsqu'ils sont interrogés. La télévision, ce n'est pas notre monde. Et souvent, un écrivain est isolé dans son espèce de chambre à lui. Et moi, j'ai toujours ressenti une sorte à la fois de grande douceur, mais aussi d'exigence. C'est quelqu'un qui va éclairer des parties de votre livre, parfois que vous n'avez peut-être pas si bien éclairé. C'est un chercheur d'or dans vos propres romans. Et c'est très rare.
Et pour ça, il faut qu'il y ait de l'or.
Oui.
Alors, on a l'air de s'envoyer des compliments, mais je voudrais dire juste une chose. C'est qu'en fait, on se connaît, mais on ne se connaît pas. Et c'est aussi pour ça que je voulais que Nina soit là. Quand je dis on se connaît, mais on ne se connaît pas. Et c'est ça la particularité de la grande librairie. C'est que depuis le départ, je me suis dit que pour être le plus honnête avec vous, c'est-à-dire avec le public, avec les gens qui nous font l'amitié tous les mercredis, avant c'était le jeudi, de suivre l'émission pendant 1h30 avec des écrivains, alors que pendant 1h30, on pourrait regarder un film, suivre un match de foot, voir des images sublimes, parce qu'il y a des racines et des ailes, qui passent le mercredi. Il fallait qu'on essaye d'arracher à l'écrivain quelque chose quand même, sans le mettre en danger, qui est la sincérité. Or, la sincérité passe par une obligation, me semble-t-il, qui n'est pas du tout morale, qui est simplement vis-à-vis de vous, qui est qu'il n'y ait pas de copinage. Donc, je rencontre Nina Bourraoui pour la première fois en 20 ans, en dehors du plateau de la grande librairie.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'on on se connaît parce qu'on... Enfin, moi, je la lis, donc j'ai l'impression de te connaître. Pour l'avoir beaucoup invité, mais ma règle d'or est de ne jamais croiser les écrivains en dehors du plateau. Alors, à 3-4 exceptions près, bon, une qui m'a percuté, ça, alors là, ça doit être très lacanien aussi, c'est comme le genou. C'est-à-dire, je m'étais dit, non mais jamais, même pas en rêve, je m'interdis toute forme Voilà. Et donc, on revient au thème de Nina Bourra. Oui, il suffit que vous interdisez le désir et l'amour pour qu'évidemment, ça vous tombe dessus. Et quand ça vous percute, un TGV à fond, c'est soft à côté. Bon. Et puis, quelques amis, mais que je connaissais avant de faire ce métier. J'ai rencontré, par exemple, Sylvain Tesson, c'est pour ça que je l'ai invité, dans les années 90, quand il faisait le tour du monde à vélo, il faisait l'andouille en Mauritanie, et moi, je faisais le crétin en traversant le désert. Donc, voilà. Jean-Christophe Ruffin nous avait soignés ensemble à Nouakchott, parce que lui, il s'était planté, je ne sais plus où, le genou, et moi, ça devait être la cheville à l'époque. Enfin bon. Et donc, voilà, il y a deux, trois écrivains comme ça, mais que je connaissais avant, et avant d'aller faire l'idiot au magazine Lire, ce qui a duré une petite douzaine d'années. Mais en fait, depuis que j'ai lancé la grande librairie, vraiment, ma règle est celle-ci. C'est-à-dire que les seules amitiés en dehors... Enfin, des amitiés. Les seuls écrivains que je fréquente ou que je vois en dehors des plateaux sont les écrivains étrangers. Comme ça, il n'y a aucun enjeu. Voilà, Douglas Kennedy, il habite à New York. Et, voilà, Jim Fergus et Jim Harrison au fin fond des grands espaces. Bon, il n'y a pas d'enjeu. Avec des écrivains français, ça m'a toujours semblé plus difficile. Et même si parfois j'ai eu envie, parce qu'on a envie de poursuivre la conversation, de se dire, ah tiens, oui, il y a des choses qui pourraient naître, et des questions. J'ai plein de questions à poser à Nina quand je lis ses livres. Et puis la manière dont ses livres aussi m'ont aidé, je reprends le mot aidé, je crois beaucoup à une littérature non pas qui console, mais qui dérange, qui déroute. Elle est experte en la matière, mais en même temps, ça permet d'avancer. Ça permet de... Vous voyez, c'est comme une béquille dans la, sur ces différentes questions. La question du désir et la question de l'identité, qui est au cœur de ton œuvre aussi. Voilà, je tenais juste à dire cela. D'abord pour vous livrer aussi deux, trois clés de la manière dont on fait l'émission avec mon équipe. C'est-à-dire vraiment dans cette logique-là. Et puis pour dire aussi toute l'admiration oui, que j'ai pour une écrivaine.
Merci François, merci beaucoup. Ça me touche.
N'applaudissez pas, c'est pas fini. François, juste vous parlez d'amour tous les deux et on vous écoute, mais je pensais peut-être qu'une définition de l'amour, François est un grand helléniste, on est dans l'amour philia. C'est un amour qu'on... En France, on a un peu confisqué la question de l'amour dans la question de l'amoureux, de l'éros. Et tout ce que vous vous dites depuis tout à l'heure, c'est l'amour qu'on peut s'autoriser, qui est celui de l'amitié, qui ressort aussi de la bonté, de moments de grâce, et en tout cas de ce type de partage. On est bon là-dessus ?
Là, il faudrait inviter Fabrice Lucchini pour... pour reprendre la parole. Non, mais c'est peut-être, oui, c'est vrai. Je suis un très mauvais élève et un mauvais helléniste. C'est-à-dire que oui, tu as raison, il y a l'amour philia, l'amour éros, l'amour agapé, les trois vertus, les trois stades de l'amour. Mais d'abord, je pense vraiment qu'une des plaies de notre époque, c'est l'intellectualisation sur l'amour. Voilà, vraiment. C'est pour ça que je crois que les romans et les romancières et les romanciers nous en apprennent beaucoup plus que les philosophes, les sociologues et les psys en tout genre, collogues, canalistes, chiatres, copates, que je mets un peu dans le même... voilà, je préfère de loin m'allonger sur mon divan et lire Nina Bourraoui qu'aller m'allonger sur le divan pour dire moins bien ce qu'un grand écrivain pourrait exprimer avec des mots justes. Et alors, pour rebondir sur cette idée de l'amour, oui, je crois qu'en fait, ce qui nous manque... Ce n'est pas tellement de réfléchir à l'amour, c'est de savoir le dire. Et là où les romanciers et les romancières nous aident, c'est quand, à travers le destin de personnages, ils ou elles mettent des mots sur ce qui se passe. Et c'est en ça, je pense, que ça nous aide. Surtout quand, en fait, c'est lié à d'autres questions, à la question des origines, à la question oui, de l'identité, en fait, qui on est.
Oui, puis je crois aussi, puisqu'on parle d'amour et de la circulation de l'amour qu'il peut y avoir tout simplement entre la rencontre d'un auteur et d'un lecteur, il ne faut pas oublier que les écrivains cherchent l'amour, attendent l'amour, veulent aimer. Je crois que lorsqu'on écrit, ce n'est pas la reconnaissance, ça n'a rien à voir. C'est peut-être l'attention, le regard... On a envie d'être enserré dans des bras. Une lecture, c'est ça aussi.
D'être compris.
Oui, je crois. Moi, je pense que les écrivains, un écrivain est en mal d'amour permanent et que les romans sont des façons, des moyens, non pas de récupérer cet amour, mais peut-être de réinventer un autre amour. Je crois beaucoup en la liaison très forte entre un lecteur et son auteur. Et je la trouve encore plus forte lorsque ce lecteur en a fait son métier et redistribue l'amour. C'est ce que fait François, c'est qu'il redistribue ce qu'il a lu, ce qu'il a aimé, ce qu'il a compris, ce qu'il a éprouvé. Et je trouve aussi très encourageant pour moi d'évoquer l'universalité de mes thèmes. Parce que c'est vrai que je pouvais penser, en écrivant, être enfermée dans mon identité, double identité franco-algérienne, mon identité amoureuse. C'est vrai que, mine de rien, même si je le conteste, je suis une militante à ma façon. J'ai toujours tenté de raconter l'histoire de l'homosexualité féminine et de l'homosexualité en général. Mais finalement, lorsque je la raconte, je raconte aussi la peur du désir qui est bien plus générale. Il ne s'agit pas du carcan de l'homosexualité ou du carcan de l'Algérie ou du carcan du métissage. Finalement, il n'est question que d'humanité.
Alors, moi, ça me soulève une question. Comment expliquez-vous, Nina Bouraoui, comme on fait dans l'émission, que justement, écrivant sur cette question de l'homosexualité féminine et de l'identité algérienne, moi qui ne suis ni algérien, ni dans l'homosexualité féminine, je sois, un, saisi, deux, que j'y trouve matière à mieux vivre. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'elle parle depuis son point de vue, mais ça aide les autres. C'est universel.
Oui, mais ce qui est...
Comment
alors,
on fait?
Je sais peut-être qu'il y a à la fois une grande sincérité, mais aussi une sorte de... Moi, je suis une idéaliste, je suis une optimiste, et j'aime les hommes et les femmes, et je trouve... Je ne vois finalement que très peu de différence. Alors, je vois parfois beaucoup de violence, hélas, mais j'ai toujours l'idée à l'esprit d'un château amour, d'un vaisseau amour. Et quand je vois mes lecteurs, justement, quand je les vois, quand ils viennent me voir en salon du livre et lorsqu'il y a des dédicaces, je suis très étonnée de voir parfois une femme qui porte un voile, parfois un jeune gay, parfois une femme homosexuelle plus âgée, parfois une maman avec des enfants et son mari. Et c'est vrai que j'ai réussi, je ne sais pas comment, alors peut-être est-ce que c'est cette puissance de la langue que j'essaye de travailler depuis tant d'années, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Marguerite Duras, j'avais 24 ans, pour mon premier roman, justement, c'était dans le cadre d'une émission télé, j'étais le fil conducteur, et on est allé chez Duras pour qu'elle raconte, elle, ses premiers pas dans l'écriture, et de l'avoir entendue, et moi qui étais une grande admiratrice, c'était mon premier livre, donc franchement, on était en 91, c'est pas 20 ans, ça fait 30 ans maintenant. Le temps passe très vite. Et j'ai toujours eu à l'esprit de trouver une sonorité et de travailler mon écriture pour qu'elle soit la plus universelle possible. Parce que je voyais bien que j'aimais bien parler de moi quand même. Enfin, j'ai fait beaucoup d'autofiction. Mais je trouve toujours très déplaisant d'être à la porte d'un livre autofictionnel, de ne pas pouvoir rentrer. Donc j'ai essayé de vraiment, peut-être alors par l'écriture, par la poésie, par la beauté, et par ce que je suis, j'espère, une grande humanité en tous les cas. Moi j'essaie d'être une grande humanité, c'est difficile parce que parfois la violence de ce monde nous contamine, elle est contagieuse, et c'est difficile parfois de ne pas se faire absorber par la brutalité du monde. Alors, il faut toujours lutter. Et je pense que dans mes livres, où il y a aussi parfois beaucoup de violence, mais j'essaie de rassembler, en tous les cas, oui, le plus grand nombre, parce que je trouve très impoli de laisser un lecteur à la porte d'un livre qui n'y soit pas invité.
Mais ça, parfois, alors que de la singularité naisse l'universalité en fin de compte, une manière d'embrasser le monde, ça, c'est ce que vous arrivez à faire, Nina, mais beaucoup s'y essaient et restent coincés dans leur segment, dans quelque chose qui ne parvient pas à rassembler tout le monde, à fabriquer du vivre ensemble, en fait. François, pourquoi ça marche parfois et pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il y a dans la magie
d'écriture?
On
peut dire la
vérité? Ouais.
Ben, y a du talent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Oui, mais ça reste...
Il y en a où il n'y en a pas. Ça, c'est aussi le grand truc. Attendez, c'est aussi pardon, mais... Il faut quand même dire les choses. L'art n'est pas démocratique. C'est terrible, mais c'est ainsi. Alors je sais bien qu'on vit à l'époque des réseaux sociaux où tout le monde a le droit d'écrire, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense, tout le monde doit dire ce qu'il pense. Je ne sais pas par quelle inversion de la valeur démocratique le fait d'avoir possiblement le droit de dire un truc est devenu « ah ben si, j'ai le droit ». Bon, mais non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui écrivent toute leur vie. Tant mieux pour eux, si ça leur fait du bien, moi j'ai rien contre. Mais ça ne sera pas, ça ne sera jamais de la littérature. C'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave, sauf si eux ou elles souhaitent que ça en soit. Malheureusement, tout le monde ne peut pas devenir Picasso. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être Mozart. Alors heureusement, les petits Salieri, ceux qui ont passé leur vie à essayer de tuer, de ligoter Mozart, finalement, ils ne sont pas si nombreux, ils n'ont plus tant de pouvoir que ça, n'en déplaise aux réseaux sociaux. Mais oui, le problème, c'est qu'elle a un talent fou. Donc elle y arrive et d'autres pas. Pourquoi ? Ben, je ne sais pas. Alors c'est pour ça, moi, que pendant 17 ans, j'ai fait une émission pour essayer de comprendre. Aujourd'hui encore, quand on me dit, ben, alors qu'est-ce que M. Bunel, c'est quoi la littérature ? Qu'est-ce que votre définition ? Je ne sais pas ce qu'est la littérature. J'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas ce qui est bien, ce qui est mal. Je ne suis pas critique littéraire, je ne l'ai jamais été et je n'ai nulle envie de le devenir. Le critique littéraire, c'est un monsieur ou une madame qui sait ce qui est bien. Elle ou lui. Ça, c'est bien, ça, c'est nul. Moi, je sais. Bravo, ben, moi, je ne sais rien. Je n'ai pas du tout réponse à tout, j'ai question à tout. Tiens, dans un livre, mais comment c'est venu ? Mais pourquoi vous l'écrivez ci et page 250, ça ? Ça, ça devient intéressant. Et le talent, il est là ou il n'est pas là ? C'est pas démocratique. Alors, c'est pas du tout démocratique, mais elle est bourrée de talent. Que voulez-vous que je vous dise ? Ce qui m'intéresse maintenant, c'est une fois qu'on a compris ça et partagé ça par l'émotion. C'est pour ça que le critique littéraire est une machine froide. Vous voyez Cal, serpent dans les Walt Disney ? Eh ben, c'est la même chose. Faites-moi confiance. Voilà. Mais il est froid, le serpent. Il faut sortir de la froideur et rentrer dans la chaleur de l'émotion. Ne pas en avoir peur. On ne lit pas un livre pour... C'est Flaubert qui disait ça. Soyez pas comme les enfants. Lisez pas uniquement pour vous divertir. Soyez pas non plus comme les grands adultes qui pensent lire pour se cultiver. Lisez pour vivre. Voilà. Quand je lis les romans de Nina Bouraoui, je vis sa vie. Ça trépigne. Même. C'est trépidant de vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas tellement de savoir si c'est bon ou mauvais, c'est de savoir, même pas de savoir comment elle a plus de talent que les autres, mais d'essayer de comprendre comment son talent fonctionne. Voilà. Donc, c'est saisir les paradoxes dans un personnage. Et puis, ça, moi, j'aime beaucoup. C'est jouer. Je veux toujours poser des questions pas naïves, mais un peu. C'est pas mettre en danger, effectivement, c'est vrai. C'est plutôt essayer de faire en sorte que l'écrivain puisse aller encore plus loin. Voilà. Moi, je serais heureux. Je pense que c'est pas arrivé très souvent. C'est arrivé peut-être quelques fois. Quelques écrivains m'ont dit ça. Parfois. Parfois. Et ça suffit à remplir de bonheur une vie de journaliste. Quand un écrivain vous dit, mais en fait, telle question, la façon dont c'était formulé m'a amené à reformuler la question autrement et je ne l'aurais peut-être pas fait sans ça. Vous voyez, il y a un ou deux livres d'entretien. Le plus génial, c'est quand même « La nuit sera calme ». Oui. Tu as lu ça, de Romain Gary. Gary, le génie absolu. À la fin de sa vie, en 1975, il écrit un petit bouquin que je vous conseille, qui est un livre d'entretien avec un grand journaliste qui s'appelle François Bondy. Oui. Voilà. Et les questions sont éblouissantes et les réponses géniales. Et dans la presse, au moment où sort le livre, Gary dit « Oui, mais en fait, jamais j'aurais pu écrire ce livre seul. Vous vous rendez compte, il a fallu le génie d'un journaliste pour... C'est un Suisse, donc il ne peut pas venir faire la promo. Mais c'est le meilleur journaliste littéraire de l'époque. Grâce à lui et à ses questions, je découvre ce que j'ai voulu faire et ce que j'ai écrit. » Alors tout le monde dit, formidable, grand livre d'entretien avec le grand François Bondy, journaliste suisse qui n'a pas pu venir. Ça. 2 ans plus tard, Gary dit, François Bondy, c'est moi. Voilà.
Génial.
Nina, on va parler de cet homme qui parle de vous. Il y a bien sûr le sujet de la manière dont le lecteur est le lecteur professionnel. Mais François, quand on est journaliste littéraire, quand on tombe amoureux d'un texte, on n'est que lecteur. C'est une fonction, mais en réalité, on reste que des lecteurs. Et c'est déjà énorme. Donc il y a toute cette pénétration du regard qu'on porte sur vos textes que le journaliste, certes, peut poser, mais aussi le lecteur. Mais Puisque François parlait des paradoxes des personnages et des auteurs, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous ne vous interrogez pas sur cet homme qui, depuis donc 17 ans, un peu plus que ça, travaille dans le livre, n'a jamais écrit un roman pour adultes, a fait des livres plutôt pour les enfants, travaille à mythologie quand même.
Non, mais ça c'était pour rire.
C'était pour rire. Bon, enfin, d'accord, ça a été publié quand même, François. C'était pas rigolo, d'ailleurs. C'était intéressant. Donc, il n'écrit pas.
C'était en 2000. C'était à un moment... C'était une commande. J'avais fait une série à la télévision et un éditeur m'a dit « Est-ce qu'on en fait un bouquin ?» J'avais dit non. Et Christophe Blin, que j'avais invité, qui est cette espèce de génie de la bande dessinée, qui était un copain, m'avait dit « Tiens, j'ai commencé à faire des crobards. » Et donc, il avait illustré le truc. On l'a envoyé à l'éditeur en pensant en vendre 200. Et puis, ça a marché. Mais c'est un truc, c'est une imposture totale. Hein. C'est un faux bouquin.
Oh, voilà. Bon, voilà.
Non, mais c'est vrai.
Oui. Et donc, voilà. Et chut, c'est pas ça. Comment il porte...
Ça, c'est le livre d'un film. J'ai rien fait. Il y a 200 pages, dont 150 de Jim Harrison. Le livre est très bon, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est une anthologie. Voilà.
Voilà. Donc, il n'écrit pas. Vous êtes d'accord ? Il n'écrit pas. Il n'y a eu que des erreurs. Et pourtant, il est porteur d'un univers. Il est porteur... Va prendre un verre, si tu veux. Il est porteur, oui, d'un univers, d'une vitalité, d'une vie intellectuelle et sensible, surtout, qui est très forte. Est-ce qu'on ne s'interroge pas sur sa capacité à lui créer... Enfin... En dehors du fait d'aider l'auteur à créer quelque chose d'un discours sur ce qu'il est en train d'écrire et une compréhension de lui-même, est-ce qu'il n'y a pas en cet homme une capacité à devenir un créateur, lui aussi, d'histoire ?
Ah oui, moi je pense qu'il le sait, parce qu'il crée. Enfin, il y a les films, il y a... et puis il y a quelque chose... moi, je crois beaucoup à la voix. Je crois beaucoup à la puissance et à ce que dit une voix. Et je trouve que François, et ça on peut le remercier nous tous auteurs, c'est qu'il y a certes le langage, les mots, c'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien et qui sait absorber, il sait absorber le ton d'un livre pour le restituer à son téléspectateur ou à celui qui va l'entendre, l'écouter. Mais la voix, dans la voix de François, je crois que son grand talent est cette voix. Quand on a une voix, je pense qu'on peut écrire aussi. Alors, il fait des films, mais moi je suis persuadée. Et cette voix si spéciale, si étrange, lorsqu'on est sur un plateau, moi, à chaque fois, je me dis, ce n'est pas de la mise en scène. Il y a quelque chose de très sincère, cette conviction, cette passion dans sa voix, dans sa manière de s'exprimer. Je pense que tu le sais aussi lorsque tu racontes toutes les légendes grecques, cette voix. Quand on est un écrivain sur ce plateau-là, on est un peu hypnotisé. Un peu intimidé, mais aussi porté par une telle ferveur. Et c'est une ferveur, je crois qu'il est dans ce grand bain de création. Enfin, moi, je l'ai jamais... je sais que je suis lue, déjà. C'est bizarre de dire ceci, mais c'est étrange. Mais ce n'est pas toujours le cas. Enfin, François est quelqu'un qui lit et qui lit vraiment. C'est un très grand lecteur. Mais lorsqu'il raconte ou lorsqu'il débusque des secrets dans vos livres, on sait qu'il lit davantage peut-être qu'un simple lecteur. Je trouve que c'est déjà un talent. Et je trouve que par sa voix, il a le langage, il a les mots. Et que ce serait très intéressant, alors peut-être de raconter, de faire des rencontres avec des auteurs ou de raconter sa vision des livres, sa vision de la littérature. Et pourquoi on sent aussi chez cet homme que la littérature l'a sauvé. De quoi, je ne sais pas. Mais c'est le sentiment, l'intuition que j'ai. La littérature l'a sauvé de quelque chose. Mais ça, c'est son secret. Moi, je ne le connais pas, mais c'est mon intuition qui me dicte cette pensée.
C'est peut-être aussi pour ça qu'il ne veut pas écrire.
Non, ce n'est pas pour ça. C'est parce que j'avais demandé à Jean Rochefort, une fois, sur la scène de la Grande Librairie, on avait fait des émissions au Théâtre du Rond-Point, c'était bien amusé. J'avais demandé à des acteurs qui lisent, parce qu'il y en a, qui lisent vraiment les écrivains contemporains, de venir... Alors, il y avait Jean Rochefort, il y avait Jean-Pierre Mariel. Et on s'était beaucoup amusé aux répétitions, surtout, d'ailleurs. Tiens. Et puis, alors, je pose à Jean une question qui est très simple. Je lui dis, mais en fait, avec vous qui adorez la littérature, Jean Rochefort, Vous n'avez jamais eu envie d'écrire ? Il me fait, si, mais je me suis relu, moi. J'ai trouvé la réponse géniale. La vraie réponse, c'est que moi, je suis un audiophile. Voilà. C'est-à-dire que je suis une oreille, pas une main. Nina est une oreille et une main. Mais c'est pas grave. Et alors, il y a la voix. La voix, elle se travaille. C'est un peu comme, je pense, un chanteur. C'est Jacques Chancel qui m'avait dit ça au tout début, quand j'ai commencé la radio. Jacques m'avait dit « Formidable j'ai entendu ce que vous avez fait. Voyons-nous, c'est très mauvais. » Mais il a vraiment dit ça. Et il m'a dit « Il faut que tu poses ta voix. Il faut que tu joues avec. » Exactement comme un chanteur. Donc, et comme un écrivain, il faut qu'on la trouve. Alors après, sur l'écriture, très honnêtement, je sais que ça surprend les gens, mais j'ai jamais voulu être écrivain. Donc je ne suis pas dans la logique aussi, peut-être qu'il y en a, je sais que j'ai des camarades qui parfois me disent leur regret de ne pas être écrivain, ou alors d'avoir publié des livres qui ne se vendent pas. Je ne citerai pas les noms, mais ils existent, ils sont nombreux. Moi, non, ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas mon logiciel. Voilà. Et mieux, j'ai découvert très tôt que ça n'était pas ma grammaire. Ma grammaire, c'est le casque audio, c'est la radio, et puis c'est l'œil, c'est de réaliser des films. Si j'arrête la grande librairie, madame, vous me disiez, j'arrête pour aller faire des films. Voilà. On va aller faire du cinéma. Il y a eu ce film sur Jim Harrison qui, hélas, ça a bien marché. Donc, du coup, je me dis, on va en faire d'autres. Des producteurs totalement inconscients me disent, mais nous, on a envie que tu fasses du cinéma. Donc, viens, on produira. En me disant, tu choisis, fais ce que tu veux. Bon, bah, voilà. Vous savez, je suis comme un gamin. Si on me dit, choisis, fais ce que tu veux, j'ai tendance à aller prendre ce qui est nouveau. C'est ça aussi. Ce qui est intéressant dans les livres de Nina Bouraoui, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'à chaque fois, ou presque, un personnage est justement percuté par la nouveauté, par quelque chose qui était imprévu, par l'insolite, par l'inattendu. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous renoncez à l'inattendu et vous vous mettez sur des rails, ça s'appelle le confort, la sécurité. Est-ce qu'il y a encore du désir et de l'amour ? Je ne sais pas. Soit vous acceptez d'y aller. C'est dangereux. Mais alors... Quel plaisir. Donc voilà, mais sur l'écriture, pour terminer avec ça, vraiment, je suis journaliste, alors évidemment, j'ai travaillé dans la presse écrite, j'admire et j'adore la presse écrite, mais vous savez, je suis persuadé qu'un journaliste n'est qu'un journaliste, c'est-à-dire que c'est un artisan, pas un artiste. C'est pas grave, j'ai compris très tôt, j'ai été un grand écrivain entre 12 et 14 ans et demi. Non mais je pense, j'ai écrit des lettres d'amour... Ça n'a absolument pas marché, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Un peu, à une époque. Et puis très vite, je me suis dit, non, ce n'est pas pour moi, ça. Du coup, j'ai recopié les lettres d'amour des écrivains, et là, d'un coup, ça marchait. Et je me suis dit, vraiment, il faut que tu restes à ta place. Trouve-la, ce sera autre chose. Très vite, j'ai eu cette envie de faire, non pas du tout de la télévision, mais de la radio. Et après, évidemment, de passer au documentaire et au cinéma de fiction. Mais... Vous savez, c'est pas très grave de pas écrire. Je sais plus qui me disait, mais en France, il y a quand même plus d'écrivains que de lecteurs. Bon, c'est pas entièrement faux. C'est pas très grave. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir le choix. Mais je ne vais pas encombrer, rassurez-vous, les piles qu'il y a déjà sur le stand avec un nouveau livre. Là, en l'occurrence, c'est un peu différent. C'est le livre du film. Voilà, c'est un truc de journaliste. Il n'y a aucune prétention littéraire. Tu parlais de ce bouquin sur les mythologies grecques. Vraiment, c'était pour rigoler. America, par exemple, faire un MOOC, un magazine dans lequel on demandait à des écrivains d'aller raconter l'Amérique, c'est du journalisme. Alors, le journalisme, ça peut parfois être très bien. Hein. Tom Wolfe, Guy Thalès, c'est des grands. Mais non, je crois... En fait... Quand on aime, on ne veut pas forcément ressembler à ceux qu'on aime. Tiens, dans votre vie privée, est-ce que vous avez vraiment envie de ressembler à celle ou à celui que vous aimez ? Non, vous n'avez pas besoin de ça, en fait, pour l'aimer. Et moi, j'aime les livres, j'aime les écrivains, j'aime la littérature. Je n'ai pas du tout envie de le devenir, de l'être. En revanche, comment faire pour transmettre encore mieux ? Pour passer encore plus large ? Arrive un moment où faire une émission ne suffit plus. Peut-être qu'on pourrait remettre les écrivains au cinéma, sous la forme de grands portraits. Alors oui, on va lancer une grande collection documentaire qui partira au cinéma, sur les romanciers. Et je vais demander à des cinéastes de faire leurs portraits. Quel cinéaste pourrait faire d'ailleurs un bon portrait de Nina Bouraoui, Nina ?
Ah, il faut que je réfléchisse.
Ouais.
Ah, je pense Maïwenn.
Ah oui. Eh ben, ouais, ouais, moi, Nina Bourraoui, par Maïwenn.
Maïwenn est une lectrice. Ouais. Elle aime ce que je fais. Je le sais par mes éditrices qui la connaissent bien. Et puis, elle m'écrit de temps en temps très gentiment et très passionnément, parce que Maïwenn est passionnée. Et c'est vrai qu'elle a cette part algérienne qui la hante de plus en plus, parce que je pense que plus on vieillit, plus on se... C'est un pays qui hante, l'Algérie, et lorsqu'on a un lien avec l'Algérie, en vieillissant, on se rapproche de ces racines-là. Et je crois que oui, voilà, Maïwenn. Oui.
Ben, ce serait une bonne idée, voilà, il n'y a plus qu'à appeler Maïwenn. Mais vous voyez, ça, par exemple, ça m'intéresse aussi aujourd'hui, de dire, bon, allez, je ne peux pas faire ça. C'est incompatible avec la lecture, Nina a eu la gentillesse de le dire. C'est vrai que quand je prépare un entretien avec Nina Bourraoui, je suis complètement débile, moi. C'est-à-dire que non seulement je lis le livre, je la note, je pose mille questions, et généralement, j'ai entre 25 et 30 questions, mais qui me viennent naturellement. C'est-à-dire que quand je lis, ce que j'aime, c'est que le livre... Souvent, on dit, quel est le critère ? C'est très simple. Soit le livre, encore une fois, je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, ça ne m'intéresse pas. Même, ce n'est pas une question de goût, ça me plaît pas. Non, est-ce que ça pourrait vous plaire ? Ça, c'est le vrai critère. Et alors, comment est-ce qu'on sait qu'un livre pourrait vous plaire ? Parce qu'il soulève ou non des questions. Un livre qui, au bout de 5, 10 pages, 20 pages, n'a soulevé aucune question, je me dis que ça va vous tomber des mains. Alors, j'ai peut-être tort. Mais un livre qui, au bout de 5, 20 pages, en a soulevé 10 ou 12, alors là, c'est formidable, parce que, voilà, on est dans ce qu'on aime, dans l'échange, dans le partage. C'est pas compatible avec le fait de produire des films comme celui-ci, si jamais on le fait. Mais deal.
Ah oui, deal.
Moi,
oui.
Je lui propose.
D'accord, ok.
Donc, je voudrais produire ce genre de choses. On va en faire 4-5 par an avec France Télévisions et Canal+, j'espère. Et les mettre au cinéma avant de les mettre à la télévision. Parce que je crois qu'il est important que les lecteurs et que les écrivains soient partout. Je voudrais que les écrivains soient à la télé, que les écrivains soient dans les librairies, dans les bibliothèques et au cinéma. Voilà. Hier, j'étais très surpris. On a projeté le film avec Jim Harrison, qui n'est pas, pour ceux qui l'ont vu, un portrait de Jim. C'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas un documentaire sur Harrison. C'est un film sur la nature. Puis il y a un écrivain que je filme comme s'il était un acteur. Et puis on s'était dit, il y a une salle. Ben, en réalité, on en a ouvert deux. Bon, c'est formidable. Bravo les brévistes. Mais quand on voit ça, c'est-à-dire qu'on voit un écrivain sur un écran de 20 mètres avec un son fou pendant 2 heures... Ben oui, je crois que ça fait avancer la cause de la littérature, que ça peut créer un désir de lire encore plus fort. Voilà. Et puis après, moi, j'irai faire, non pas écrire des bouquins, mais tourner des films. Il y en a 2 en préparation.
C'est la raison pour laquelle je n'ai pas dit pourquoi n'écrivez-vous pas, François, mais comment, puisque vous n'écrivez pas, quels moyens allez-vous trouver pour nous raconter des histoires ? Et donc, vous allez donc faire de la fiction filmée, c'est ça ?
Voilà. Enfin, je vais essayer.
C'est de l'écriture, quand même.
Oui, enfin, pas vraiment, parce qu'en réalité, la part d'écriture... Oui, il y a de l'écriture, mais l'écriture, elle est quand même contrariée par l'œil, par la caméra, par la mise en scène. Voilà. Et moi, c'est ça qui me fascine. C'est... Où est-ce qu'on plante sa caméra et comment on monte derrière ? Moi, j'ai découvert, grâce à Adrien Solan, qui est le réalisateur de la Grande Librairie, avec qui on est parti faire pas mal de docs, on a fait des docs pour la télévision, mais c'est formaté. C'est un peu comme écrire dans une collection qui existe déjà.
Pardon François, puisque vous avez ouvert la rencontre avec un petit moment lacanien, le genou, oui. Adrien Solan.
Ouais. Ah oui, j'avais pas pensé. L'insolent.
Forcément, il a envie de pousser les cadres.
Oui, d'autant plus que c'est lui qui me pousse à faire ça. C'est quand même mon réalisateur qui devrait dire non, tu restes là où tu es, qui me dit mais allez, vas-y. Bon.
Pardon.
Oui.
Continuez.
Mais. Non, mais c'est en fait. Alors, c'est une écriture différente. Encore une fois, c'est pas la même grammaire. C'est du collectif, là où j'imagine que tu es seul. Je sais pas si le travail.
Oui, non, seul, oui.
Ouais. Et le travail avec l'éditeur est quand même. Arrive après, dans un deuxième temps.
Alors, ça dépend. Pour le dernier, comme j'étais... Parfois, j'ai des sortes de... Pas de spasmes d'écriture, mais en tous les cas, des instants où tout s'arrête, où je n'arrive pas à écrire, où je perds confiance, où j'ai très peur. Mais je ne sais pas. Je crois que ça marche avec la vie aussi. Je crois peut-être que c'est quand, dans la vie, on est... parfois on a des instants pas forcément très heureux ou de doute. Ou de... Et je crois que moi, je marche vraiment main dans la main avec mon écriture. Alors, j'ai trouvé un moyen de plus jamais m'arrêter d'écrire. C'est que depuis 3 ans, je tiens une sorte de journal d'écrivain qui est plus qu'un journal intime. C'est comme des archives aussi pour moi. Comment mes livres se fabriquent, comment ils naissent. Et puis, je raconte tout ce qui m'entoure.
Qui sera publié un jour ou pas ?
Qui sera publié un jour, oui, ouais, bien sûr. On a... Alors, il faut un peu... attendre parce que c'est très aussi sur ma famille, c'est parfois assez violent. C'est-à-dire que c'est le livre... Alors c'est terrible parce que je ne peux pas dire que je me suis censurée dans les livres que je publie, mais il y a quand même parfois une parole qui est retenue par morale, par respect. Dans ce livre, ce n'est pas un défouloir, mais tout est dit. C'est dit parce que c'est écrit dans l'espoir de ne pas être publié, mais aussi dans le désir d'être publié. C'est-à-dire que lorsque j'écris, je me dis je suis très libre, ce ne sera pas publié, mais je sais que je vais le publier un jour. J'ai déjà 600 pages, j'écris beaucoup, tous les jours. Et c'est une écriture qui est travaillée et qui reste littéraire. Ce n'est pas l'écriture du journal intime où on pourrait noter comme sur un post-it. Mais depuis que je suis dans cette entreprise-là, mon écriture ne s'arrête plus comme avant. C'est-à-dire que ça tourne toujours comme une sorte de moteur et l'écriture est devenue encore plus qu'avant ma façon de vivre, mon mode d'expression. En fait, le but, c'est d'écrire la vie en train de se vivre. Alors, et puis, c'est vertigineux parce que ça, ce projet s'arrêtera.
Ce que j'aime bien, c'est... Non, pardon, je coupe Lina, mais vous rendez compte, mon but, c'est d'écrire la vie en train de se vivre. Rien que ça, c'est une phrase qui est admirable et qui mériterait d'être notée, mais c'est d'une poésie folle. C'est génial.
C'est d'ailleurs, et le livre commence ainsi. Et alors, c'est vertigineux parce que je sais qu'il s'arrêtera à ma mort. Mais c'est une façon aussi de déjouer les pièges de toutes mes phobies, parce que mes premières phobies, j'en ai même fait un livre, qui est le Renaudot, mes mauvaises pensées, cette phobie qui me hante et qui, cette peur de la mort, tout d'un coup, est apprivoisée. Parce que justement, comme j'écris la vie en train de se vivre, je peux aussi me projeter en me disant que ce livre s'arrêtera si moi, je m'arrête. Si je m'arrête de vivre. Donc c'est une sorte de... C'est vertigineux, c'est comme de l'escalade. Et ce livre est dans les backstage, en fait, mais il éclaire quand même aussi les livres que je suis en train d'écrire. C'est-à-dire que le prochain livre que j'écris, il est déjà en préparation dans ce livre backstage. Donc c'est très... c'est une nouvelle méthode pour moi. Je suis très contente parce que ça me rassure. Et peut-être qu'il fallait attendre la cinquantaine. Je trouve que la cinquantaine... Tu es peut-être d'accord, la cinquantaine, maturité, cette nouvelle confiance. J'ai jamais eu confiance en moi. À chaque fois, le roman que j'étais en train d'écrire était toujours le premier roman. Je ne supporte pas ces écrivains arrivés, assis. On n'est jamais arrivé dans l'écriture. Finalement, on est toujours perdu. C'est ça qui est bien.
Partir, le plus beau mot de la langue française. Arriver et arriviste, le pire mot de la langue française.
Voilà, c'est dit.
Et d'autant plus qu'on ne part pas pour arriver, On part pour foutre le camp.
Oui, c'est vrai.
Avant de foutre le camp, ça serait compliqué quand même de faire un rendez-vous autour de la littérature sans demander aux lecteurs de poser leurs questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à François Bunel ou à Nina Bouraoui ? Un micro va circuler dans la salle. Bon, alors, deuxième question. La première étant trop difficile. Madame, si vous remettez vos cheveux, je vais penser que vous voulez poser une question. Là, il faut oser. Lancez-vous. Oui.
Bonjour et merci pour cette rencontre. Moi, j'ai juste une petite question pour François Bunel. Tout à l'heure, vous avez dit que quand vous lisiez, la question que vous posiez, c'était aussi qu'est-ce qui va plaire aux gens, qu'est-ce qui va vous plaire ? Vous n'avez jamais pensé à faire éditeur ?
Bonjour. Non. Jamais. Non, parce que... éditeur, c'est... J'ai encore à me faire des copains. Hein. Bravo, merci. C'est un métier compliqué, éditeur. Parce que... vous êtes au plus près de la création avec des gens que vous admirez. Mais vous êtes aussi... au plus près de ce qui... C'était un peu la même chose que quand vous dirigez un canard, un journal. Ça, je l'ai fait. Je peux vous dire que je ne le referai plus jamais. Parce que vous êtes aussi au plus près d'un expert comptable ou d'un financier. Et je ne connais pas un éditeur, pardon, hein, je les aime beaucoup, j'ai beaucoup d'admiration pour certains et certaines, mais je ne connais pas un éditeur qui soit totalement capable, autorisé à être sincère. Un éditeur a toujours ce qui s'appelle une ligne de compte. Moi, la seule ligne qui m'intéresse, c'est la ligne de chemin de fer, comme disait Albert Londres, celle qui permet de foutre le camp. Donc c'est compliqué, parce que vous voudriez publier, vous voudriez laisser quelqu'un, et puis il y a tout un tas de choses qui ne sont pas bien reluisantes, vous voyez. Non, c'est... Et puis, il y a ceux qui réussissent à le faire, mais alors, il y en a, hein, d'ailleurs, mais qui sont du... C'est ce que j'appelle ceux qui arrivent à échapper à tout ça. Mais pour le coup, ce sont des saints. C'est-à-dire qu'ils sont totalement dédiés et dévoués à leurs auteurs. Alors moi, croyez-moi, je ne suis pas du tout un saint. Je serais plutôt un peu diablotin, vous voyez. Je n'ai pas cette... j'aime les écrivains, mais je n'ai pas cette abnégation. Non, éditeur... Je crois que je ne saurais pas faire, surtout, d'ailleurs, en fait, quand j'y pense. C'est compliqué, éditeur. Il faut proposer, il faut aider, non ? Qu'est-ce qu'il fait concrètement avec toi, l'éditeur ?
Alors, il y a deux saintes. Il y a deux saintes ici.
J'allais
qui
dire,
sont,
oui.
Mes,
ah bah oui,
qui sont mes éditrices. Non, mais moi, je trouve qu'un bon éditeur, c'est... On dit une maison d'édition. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la famille, de la protection. Enfin, une famille qui n'est pas dysfonctionnelle, où tout se passe bien.
Ça existe, ça ?
Alors... On se la recrée justement avec ses éditeurs et en l'occurrence ses éditrices. Non, ça n'existe pas. Et un bon éditeur, non, justement, un bon éditeur, c'est un chef de famille qui n'est.
Alors, qui n'existe pas.
Qui est peut-être en dehors du réel. C'est une famille peut-être unique, idyllique, mais qui existe. Moi, mes éditrices, j'ai entièrement confiance en elles. Je sais qu'elles sont là. Je sais que quand elles me lisent, elles disent la vérité. Je ne me sens jamais flattée. Quand c'est voilà, enfin on a quelque chose de très, c'est quelqu'un de sincère et c'est surtout quelqu'un qui est là et qui est là financièrement, parce qu'il ne faut pas oublier que vendre des livres c'est de plus en plus compliqué, qu'il y a une c'était Pascal Quignard, mon premier éditeur, me disait souvent « Nina, il ne faut pas que le poids de l'argent pèse sur la main de l'écrivain. Oui. » Et j'ai trouvé ça très juste. Et un bon éditeur, justement, vous fait oublier le poids de la main qui pèse sur un écrivain.
Nina, on va demander à
Véronique. Je pense que c'est
Cardi.
Mais voilà, elles sont là. Véronique, donc, bien
si,
sûr.
Si. Ah non, mais si, Anne-Sophie. Non, mais elles font non. Véronique Cardi qui dirige les éditions La Thèse. Si,
venez,
elle a un truc
venez,
à dire.
Allez.
Véronique, allez, hop, debout.
Que fait un éditeur et que fait une éditrice ?
Tu me détestes, je sais,
Véronique.
C'est pas grave.
Totalement. Moi qui ne suis ni sainte ni diablotine. Non, quelle était la question alors ? Si, bien sûr, mais j'écoutais Nina parler de ce que j'essaye de lui apporter avec toute l'équipe de la maison des éditions La Thèse, mais c'est surtout une présence. Nina, c'est vrai que depuis qu'elle a commencé à ne jamais arrêter d'écrire, on n'arrête pas de la lire, et donc c'est aussi être dans ce flux d'amour. Tu parlais d'amour tout à l'heure sur le regard d'un journaliste, ou en tout cas d'une personne qui lit et qui interroge ensuite les écrivains, et je crois qu'il y a cette forme d'amour aussi d'une maison, d'une éditrice en l'occurrence, pour son autrice. Alors voilà, et on parlait aussi de talent, et donc quand on a la chance de publier Nina Bouraoui, voilà. C'est
après,
tout ce que j'ai à dire.
Après, il faut peut-être quand même rappeler une chose, Véronique, tu diras ou pas, mais l'éditeur est indispensable dans le travail de l'écrivain. Alors, que moi, j'ai pas envie d'en le devenir, c'est autre chose, mais c'est indispensable. C'est-à-dire que je crois pas que beaucoup... Nina me contredira peut-être, qu'il y ait des écrivains qui travaillent tout seuls. Je crois que le seul qui a dû bosser tout seul, c'était Homer, et encore même pas, il paraît que c'était plusieurs. Mais, vous voyez, on a besoin de l'éditeur.
Oui, puis ne serait-ce que d'être attendu.
On ne peut pas être tout seul.
On remercie Véronique Cardi, bravo, qui dirige avec beaucoup de talent les éditions La Thèse. C'est une femme, elle est jeune, c'est bien. Pardon.
Oui, c'est vrai.
Ouais. C'est bien.
Pardon, François ?
Non, mais tout ça pour
oui, effectivement,
redire aussi à quel
pas
point
ça,
les écrivains en fait me fascinent. C'est parce que tout à l'heure tu parlais de Pascal Quignard. Alors, Pascal Quignard, moi, c'est quelqu'un qui représente un mystère pour moi. Pascal Quignard, tous les matins du monde. Il y a quand même quelqu'un qui a été pendant des années un mondain. Quelqu'un qui était secrétaire général d'une grande maison d'édition, Gallimard. Secrétaire général, ça veut dire que vous passez votre temps au téléphone avec des jurés de prix qu'il faut plus ou moins convaincre. Convaincre ne veut pas dire corrompre, hein. Enfin bon, c'est du boulot, etc. Et puis un jour, et puis vous écrivez pas vos propres livres parce que bah, il faut lire ceux des autres. Bon. Or, Quignard était bourré de talent. Et un jour, il fait cette chose absolument folle, d'une liberté inouïe. Il démissionne de tout. De tout. Et il se met, à, je crois, 40 ans, à sa passion qui est le violoncelle. Et les livres. Et la lecture de livres anciens. Et puis, il nous fait un ou deux manuscrits par an qui se vendent très peu ou beaucoup. Et puis, il a le prix Goncourt. Et puis, et il vit autrement. Et en lâchant tout. Il était directeur de la musique aussi, je crois, à un moment, au ministère de la Culture. Et tout à coup, ça, je trouve ça admirable et fou et mystérieux. Mais est-ce que Quignard, écrivain, celui que vous aimez, serait devenu ce qu'il est s'il était resté simplement éditeur? Je ne sais pas. Peut-être pas.
Et tu sais qu'il est parti, il méditait.
Ça, je ne savais pas.
Oui, et en fait, ce qui s'est passé, oui, c'est mon premier éditeur. Et en fait, j'avais rendu
ton
un troisième
manuscrit. Tu lui as envoyé à lui?
Moi, j'ai envoyé par la poste. Je connaissais personne.
Par la poste.
J'ai fait Gallimard, Le Seuil, Grasset.
Comme quoi,
Gallimard,
ça marche.
M'a répondu en premier. Ouais. Et donc, c'est Pascal qui s'occupait. C'est drôle, ce mot d'ailleurs, s'occupait de moi. Et je me souviens, mon troisième roman était totalement raté. Oui, c'est bizarre. Il était raté. Il s'appelait Paris selon l'amour. Je me souviens, mon père m'avait dit, mais c'est un nom de parfum. Et je l'envoie à Pascal. J'étais au Mexique. Et Pascal m'a dit, je vais vous appeler Nina. Il n'a jamais appelé. Et en fait, il a pris en prétextant, enfin, entre autres, parce qu'en effet, il ne pouvait plus faire ce métier. Il était, il voulait plus être ce mondain. Et il a claqué la porte, il a dit « Ah, on refuse le troisième manuscrit de Nina, donc je pars ». Mais c'était totalement un prétexte. Mais moi, ça m'avait traumatisé. Bon, le livre n'est jamais paru, et tant mieux. Et finalement, son départ, je suis restée je suis restée 3 ans sans écrire. Parce qu'en fait, je rencontre un autre éditeur au sein de chez Gallimard qui me conseille d'arrêter d'écrire. Je ne dirai pas son nom, c'est un éditeur très connu.
Non, vraiment ?
Vraiment, que j'avais eu beaucoup de chance.
Encore un visionnaire.
Que le prix Inter n'était pas mérité.
Non.
Et pendant 3 ans, je n'écris pas. Mais le départ de Quignard
c'est
me
une
fait...
C'est
Oui, oui. Mais j'étais jeune en plus. Moi, j'étais un bébé, j'avais 26 ans. Et le départ de Quignard me fait rencontrer Jean-Marc Roberts.
Voilà.
Grâce à Antoine, qui d'un coup fait le lien, et je suis Jean-Marc.
Et Renaudot.
Alors Robert, c'était intéressant, parce que c'était un éditeur et un écrivain. Il écrivait des petits livres très très beaux, fulgurants, à la fois drôles et désinvoltes. C'est marrant, parce qu'il écrivait des livres... Un jour, il m'avait dit cette phrase extraordinaire, il m'avait dit, tu sais, j'écris des livres un peu ratés, mais j'aide les autres à faire des livres réussis.
Et
je trouvais que c'était
merveilleux
comme définition de la littérature et de l'amour des écrivains.
Mais il avait conscience, et pourtant je trouve moi qu'il avait beaucoup de talent.
Ah oui, il avait un talent fou, oui,
mais bien disait, sûr. Mais aussi il disait, oui, mais mes livres, c'est comme un coup de téléphone, je donne de mes nouvelles.
Oui. C'est ça,
Ce que fait Amélie de Tombes, d'ailleurs, tous les ans. C'est une espèce de... Elle donne de ses nouvelles, elle entretient quelque chose, une relation particulière avec ses lecteurs. On va peut-être prendre une dernière question. Ou pas ? Pardon. Tu veux poser une question, François ?
Je vais pas poser une question. J'attends que François ait terminé son. Hein. Je voudrais dire.
Je vous avais dit que à l'école, j'étais au fond de la classe. Hein. Voilà. On discutait comme ça. Toi aussi.
Alors, je voudrais vous dire que. François Bunel.
Il y a le prof qui parle. Là,
m'a téléphoné, il n'y a pas bon temps, pour m'expliquer que ça faisait 6 mois qu'il s'entraînait depuis qu'il avait accepté Brive pour donner le coup d'envoi. Et comme il avait vu que certains, comme Tellet, avaient envoyé quasiment le ballon dans les 22, il s'entraînait. Et comme tous les sportifs de haut niveau sont extrêmement fragiles, et les de haut niveau. il m'a empêché de dormir quelques nuits quand même. Il a un problème d'entorse du genou, comme tous les sportifs de haut niveau. Je vais demander à deux sportifs de haut niveau qui sont là, Xavier Ric, le directeur du CAB, de me rejoindre, et Frédéric Soulier, le maire de Brive. Là, vous voyez, on joue dans le haut niveau quand même. Hein. Voilà. Et donc, fidèle à une promesse.
Ça aurait été autre chose hein, si j'avais été sur le terrain hier. La Rochelle,
c'est pas gagné
les pénalités. Je viens de La Rochelle, moi.
C'est pas gagné les pénalités, voilà. Et donc, il a dit, on va remettre à François ce qu'il espérait secrètement. Et voilà. Donc, il faut se lever parce que même sans béquille, voilà.
Tiens.
On va essayer. Voilà, Xavier.
Bonjour à toutes et à tous. Et, j'ai le plaisir de remettre le maillot du club de Brive, voilà, avec le nom de François. François David m'avait dit on a recruté un joueur pour le match contre La Rochelle. Il aurait pu nous servir peut-être en fin de match, mais comme il avait une entorse du genou, il n'a pas été utile. Mais,
on va garder la mythologie selon laquelle l'entorse est liée à un entraînement intensif pour donner le coup d'envoi. Mais on les aurait pliés hier. Hein, si
on avait été sur le terrain. On aurait tous aimé.
On ne serait pas dernier.
On ne serait pas dernier, mais je peux vous dire qu'on va se battre pour rebondir et pour remonter, surtout dans ce classement du top 14.
Voilà.
Moi, je suis rochelaise, alors je suis au bord de me faire éjecter.
Voilà.
Bah maintenant, il faut le mettre, François, maintenant.
Alors, attendez, il faut quand même dire une chose. J'ai jamais eu envie d'écrire, mais par contre, à une époque, j'ai caressé le rêve de faire du sport. Je m'étais même inscrit dans un sport-études, pour tout vous dire, et j'ai fait, parce que j'étais pas très bon au tennis, j'avais fait 15-4, mais au rugby... Le grand avantage des pensionnats, quand vous êtes un élève turbulent, c'est qu'on vous fout en pension dès l'âge de 12 ans. Donc j'ai fait pensionnaire, collège, lycée. Mais l'avantage des pensionnats, c'est qu'il y avait des équipes de rugby. Eh oui. Et alors à l'époque, je vous raconte ça et après je vous laisse. Dans les années 80, on avait des coachs qui pensaient que dans la mêlée, il fallait des poids-plumes. Donc je jouais numéro 7. Oui, non, mais, oui, mais attention, à l'époque, le pack digérait le cassoulet, d'accord ? C'est quand même l'époque où, avant une demi-finale, hein, on allait au restaurant, et c'était cassoulet plus le vin rouge. Et nous, le 7 et le 5, sur les ailes, en troisième ligne, bah, quand la mêlée dégageait, on sortait très vite et on courait très très vite. Et donc, on a marqué quand même 2-3 passes pour l'essai, qui était marqué, non, c'était le 12 ou le 14. Mais bon, voilà, on sortait très vite de la mêlée et ça marchait bien. Alors, vous savez qui était numéro 7 également ? Boris Cyrulnik. Donc, on a commencé avec Lacan, on va terminer avec Cyrulnik.
Pas à la même époque.
Et presque.
Et je découvre qu'il y a des pensionnats, qui est un secteur que je connais bien, où on mange du cassoulet, ce qui m'impressionne beaucoup, quoi.
Merci beaucoup, ça me touche énormément. Et voilà, comme ça, maintenant, je regarderai Brive et je garderai de Brive un encore meilleur souvenir.
Eh bien, merci. Alors, cette rencontre a commencé avec de l'amour, de la littérature, et puis on termine avec l'amour du sport. Et François qui se met en maillot, et il lui va super bien en plus. Il manque le ballon quand même. Et bien sûr, merci à tous. Merci François. Merci Nina Bouraoui. Son dernier texte en date, c'est Satisfaction. Je le dis à l'américaine. C'est publié l'année dernière. C'était son 18e roman. On attend le 19e. Merci à tous pour votre attention. On va suivre les aventures de François au cinéma. Et il nous a fait quelques belles annonces. Merci à tous de votre attention. Et bonne fin de 40e édition. Je laisse la parole à monsieur le maire.
Non, on va juste vous quitter pour faire une conférence de presse avec François Bunel pour évoquer cette 40e foire. Je pense qu'on peut croire et comprendre que cette 40e, elle est juste en 5 syllabes extraordinaire. Merci beaucoup.